Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir. Il y a plus de monde aujourd'hui et tous les jeunes sont là. Je pense que vous avez fait baisser un peu la moyenne d'âge, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour nous, les personnes âgées. Je pense que vous avez fait baisser un peu la moyenne d'âge, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour nous, les personnes âgées, mais c'est un plaisir de vous voir tous. En 2013, un film est sorti, il s'appelait Le Majordome. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu ou en ont entendu parler, mais le film s'appelait Le Majordome et parlait d'un majordome. Il était basé sur un homme, qui s'appelait Cecil Gain dans le film, et qui avait grandi dans une plantation de coton. Je pense qu'il est né en 1919. Il a grandi dans une plantation de coton, et c'était sa vie. Lorsqu'il avait environ 7 ans, une tragédie a frappé sa mère, qui a été violée par le propriétaire de la plantation. Elle a été violée par le propriétaire de la plantation. C'est évidemment une chose terrible. Le père de Cecil en a été bouleversé et a décidé de tuer le propriétaire de la plantation. La vie de ce jeune homme de 7 ans a donc connu un début tragique. Il est intéressant de noter que le propriétaire de la plantation, l'homme qui a violé sa mère, a recueilli Cecil et a commencé à s'occuper de lui, ce qui est assez inhabituel. Elle l'a recueilli et lui a appris à s'occuper d'une maison, à tenir un ménage. Il s'agit des premiers stades d'une sorte de servante ou d'un domestique. Elle était compétente dans ce domaine et elle a fini par apprendre à Cecil à faire cela. Cecil a donc progressé dans sa vie et les choses ont commencé à s'améliorer de cette manière. Il était à l'intérieur, et il pouvait servir. Cecil a eu 18 ans, il s'est débrouillé tout seul et il a décidé de faire sa vie. Malheureusement, les choses ne se sont pas améliorées pour lui. Il était désespéré. La situation était très mauvaise. Au plus bas, il a fini par s'introduire dans une boulangerie. Il avait tout simplement faim. Il s'est introduit dans une boulangerie et a volé de la nourriture pour avoir de quoi manger. Un vieil homme l'a vu, a vu sa situation et l'a recueilli. Curieusement, l'homme qui l'a recueilli était également très doué pour l'hospitalité. Il a su non seulement prendre ce que Cecil avait appris en grandissant, mais aussi l'aider à passer à un autre niveau. Il était très doué pour les relations interpersonnelles et pour s'occuper d'un foyer, mais il était capable de le faire et d'enseigner à Cecil comment le faire à un niveau plus avancé. Vous voyez tous où je veux en venir, vous savez. Le film Le Majordome. En fin de compte, Cecil a dû relever bien d'autres défis, mais il a fini par être embauché à la Maison Blanche, où il a occupé le poste de majordome. Il a fini par servir dans l'administration de Dwight Eisenhower. Ce jeune homme a donc grandi dans une plantation, a pratiqué le métayage, a vécu tout ce qu'il a vécu et a fini par devenir majordome à la Maison Blanche. Si vous savez quelque chose sur les majordomes de la Maison Blanche, c'est un travail très prestigieux pour cette industrie. Il a servi, l'homme dont le nom a été basé sur le sien, je crois, était Eugene Allen. C'est le nom de Cecil dans le film, mais l'homme qui a inspiré le film s'appelait Eugene Allen. Eugène a ensuite servi sous lui président. Il a donc été maître d'hôtel pendant 34 ans et a pu mettre ses compétences à profit. Un moment de sa vie a été particulièrement marquant. Vers la fin de son mandat, je crois que c'était en 1918, le président Reagan et sa femme l'ont invité à un dîner spécial, et ce n'était pas en tant que majordome. Il était invité à ce dîner en tant qu'invité spécial, et il a pu partager un repas avec des dirigeants et des dignitaires. Sa vie a alors complètement basculé. Au lieu de l'uniforme, il a pu porter un smoking. Il a eu droit à un dîner somptueux et, Comme vous pouvez l'imaginer, les gens se sont demandé « Bon, eh bien, qui est-ce ?» et d'entendre son histoire. J'oserais dire qu'il avait probablement l'une des histoires les plus inspirantes, si ce n'est la plus inspirante, pour expliquer pourquoi il participait à ce dîner. Mais quand on pense à Eugène, et je parle de lui, cela devient une analogie parfaite pour nous. Vous pensez à Eugène, vous savez, il a traversé sa vie, il ne s'agissait pas seulement d'accomplir des tâches. Il cherchait vraiment à combler un besoin, à répondre aux besoins des gens, et c'est ce que font les majordomes, et les gens qui travaillent dans un secteur similaire, ils aident à répondre aux besoins des gens. Ils travaillent très discrètement, dans l'ombre, ils apportent leur soutien et s'assurent que les gens ont ce dont ils ont besoin. Les majordomes comme Eugène ne le font pas pour attirer l'attention, ils ne cherchent pas à attirer l'attention. Je veux dire que certains d'entre vous pensent peut-être que c'est un travail assez minable, que je ne voudrais pas faire cela, servir de la nourriture à des gens et devoir nettoyer après eux. Je vous dirai qu'on est loin du métayage et que le métier de majordome, c'est le summum, c'est le sommet, vous savez, quand on pense à le faire pour la Maison Blanche. Mais les gens comme Eugène ne le font pas pour attirer l'attention. Ils le font parce qu'ils veulent aider les gens, ils veulent répondre aux besoins des autres. Et nous avons tous besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide. Vous savez, aucune personne, quelle que soit sa puissance, quel que soit son passé, quelles que soient ses circonstances, tout le monde, sans aucun doute, a besoin d'aide. Ils ont besoin que quelqu'un intervienne et les serve. Et c'est quelque chose de très important. Et, mes frères, c'est vraiment ce qu'est le service à la base. Au fond, il s'agit d'aider à faire fonctionner les choses et à aider les gens à fonctionner. C'est vraiment ce qu'est le service à la base, si l'on essaye de l'approfondir. Il s'agit d'aider les choses à fonctionner, d'aider les choses à bien fonctionner et d'aider les gens à fonctionner. C'est vraiment ce qu'est le service. Voici une vérité plus profonde. Nous avons parlé de majordome et de circonstances dans le monde, mais ce que j'ai décrit, c'est ce à quoi le christianisme devrait ressembler, ce qu'est le christianisme. Une vie chrétienne est une vie de service. Il s'agit d'aider les choses à fonctionner et d'aider les gens à fonctionner. C'est le cœur. Le centre de ce que nous faisons. Ce n'est pas tape à l'œil. Ce n'est pas de l'autopromotion. Il s'agit d'aider les autres. Il s'agit d'être fidèle, cohérent, d'être présent et de faire preuve d'humilité. Je vais donc partager ou faire une déclaration ici, vous pouvez considérer que c'est une déclaration forte, mais si nous ne servons pas, frères, nous ne sommes pas chrétiens. Maintenant, vous pourriez penser, d'accord, mais qu'en est-il de la doctrine? C'est ce qui fait de nous des chrétiens. Qu'en est-il de la défense de la vérité? Bien sûr, c'est ce qui fait de nous des chrétiens. Mais qu'en est-il de toutes les choses que nous faisons, de l'obéissance à Dieu, des jours saints et de tout le reste? Ces choses ne sont-elles pas importantes, elles aussi? Bien sûr, elles le sont, mais si nous ne servons pas, frères, nous ne sommes pas chrétiens. Aujourd'hui, je vais donc prouver qu'être chrétien, c'est être serviteur. L'un équivaut à l'autre. Être chrétien, c'est être serviteur. Ensuite, je vous montrerai plusieurs façons de répondre à ce grand appel. J'affirme qu'être chrétien, c'est être serviteur, et je le dis sous forme d'équation. L'un égale l'autre. Pourquoi est-ce que je dis cela? Reportez-vous au chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Nous allons commencer à construire cela ici. Pourquoi est-ce que je dis qu'être chrétien équivaut à être serviteur? Philippiens, chapitre 2. Nous allons lire une description étonnante. Philippiens chapitre 2, et nous reprendrons au verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6, qui, en référence au Christ, bien sûr, qui avait la forme de Dieu. D'accord, la forme, c'est ressembler à Dieu, avoir la forme de Dieu, être Dieu. Jésus-Christ était donc Dieu. Il ressemblait à Dieu. Il était Dieu. Il avait la forme de Dieu. Poursuivez votre lecture. N'a pas cru devoir être égal à Dieu. Cela prouve que Christ est Dieu. Verset 7, il s'est dépouillé de toute réputation, et il a fait quoi? Il a pris la forme d'un serviteur. Il est donc passé de la forme de Dieu à la forme, le même mot, la forme d'un serviteur. Il est donc passé de la forme de Dieu à la forme de serviteur. Bon, eh bien, à quoi ressemblait Jésus-Christ quand il est venu? Quelle était sa forme? Je veux dire que nous pouvions le voir. Vous savez, Dieu est invisible. Vous ne pouvez pas le voir, mais nous pouvions voir Jésus-Christ. À quoi ressemblait-il? De quoi avait-il l'air? Au milieu du septième verset, et il a été fait à la ressemblance de l'homme. D'accord, nous commençons à avoir une idée de ce qu'était sa forme. Et il a été trouvé sous la forme d'un homme. Il est donc clair qu'il était un homme. Jésus-Christ, qui avait la forme de Dieu, est venu sur terre et a pris la forme d'un serviteur. À quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, nous continuons à lire. Il a pris la forme d'un homme, d'une personne, d'un être humain. Un être humain qui est également décrit comme un quoi? Un serviteur. Christ a pris la forme d'un serviteur, en d'autres termes, d'un être humain. Christ n'a pas gardé sa forme pieuse et n'est pas venu servir les gens ici sur terre. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il aurait pu le faire. Il aurait pu garder sa forme pieuse et servir les gens sur terre. Même Dieu le Père fait cela. Il a sa forme divine et, vous savez, il nous aide. Il nous sert. Mais Jésus-Christ a pris la forme d'un serviteur. Il s'est enveloppé de chair. Il est devenu un être humain, et c'est ce qu'on appelle la forme d'un serviteur. Ainsi, aux yeux de Dieu, un être humain est un serviteur, et un serviteur est un être humain. Allons au chapitre 2 de la Genèse. Genèse, chapitre 2. Retour au commencement, quand Dieu a créé l'homme, quand il a façonné l'homme, quand il a fait l'homme à partir de rien. Genèse, chapitre 2, verset 7. Et le Seigneur Dieu a fait quoi? Forma l'homme de la poussière du sol, et il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dieu a donc façonné, formé les êtres humains. Il nous a formés à partir de la poussière. Il aurait pu nous faire avec de la pierre. Il aurait pu nous faire en diamant. Nous pourrions être des gens de diamant. Il aurait pu nous faire d'or, de toutes sortes d'éléments. Mais Dieu a décidé de nous créer à partir de la poussière du sol. Vous pensez, de la poussière? D'accord, je secoue la poussière de mes pieds. Je marche sur la poussière. La poussière n'est rien. Ce n'est pas une coïncidence. Cela nous rappelle, en tant que serviteurs, que nous allons parler de nos humbles débuts. Nous venons de la poussière. Nous ne devrions pas l'oublier. Je pense à Cecil. Il est parti de rien. Il est devenu quelque chose de bien plus grand. Mais Christ était égal à Dieu, mais il est devenu un homme, et il est devenu de la poussière. Christ est devenu une cellule. Il est passé de la forme de Dieu à la forme d'homme, ce qui signifie la cellule. Jésus-Christ vivant était une cellule. Il est devenu chair. Il a pris la forme et la fonction d'une personne, comme nous l'avons lu plus tôt, en tant que serviteur. Ainsi, lorsque Dieu nous a formés, vous savez, parce que vous vous souvenez qu'aux yeux de Dieu, un homme, un être humain, est un serviteur et un serviteur est un être humain. Il est donc clair que lorsqu'il nous a formés, il l'a fait dans quel but ? Servir. Servir. C'est dans cette optique qu'il nous a créés. C'est pour cela que nous avons été créés. Il nous a donc donné des mains pour que nous puissions construire des choses. Nous pouvons réconforter les gens en leur touchant l'épaule. Nous pouvons les serrer dans nos bras. Nous avons des pieds pour pouvoir nous déplacer et répondre aux besoins des gens lorsque est nécessaire. Nous avons des yeux pour pouvoir voir quand quelque chose manque, pour voir quand quelqu'un a besoin d'aide, pour voir quand une situation exige que nous intervenions. Nous avons des oreilles. Nous pouvons entendre et écouter les gens qui s'ouvrent à nous, ou nous pouvons écouter un projet ou quelque chose sur lequel nous travaillons. Nous pouvons entendre, vous savez quoi? Il y a un besoin, je crois que je peux répondre à ce besoin. Nous avons un cœur qui nous permet de penser aux autres et de prendre soin d'eux. Nous avons un cerveau qui nous permet de réfléchir et d'assembler les choses. Vous voyez où je veux en venir. Nous avons été formés, chacun d'entre nous, tous, avec l'idée de servir, d'être capable de servir. Chaque partie de la forme humaine a été conçue par Dieu pour servir. Romains 12. Romains, chapitre 12. Ce verset est familier, mais il devrait vous paraître un peu différent maintenant. Je l'ai lu différemment pendant que je préparais ce texte. Romains, chapitre 12, premier verset. Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à présenter vos corps, donc le corps entier, c'est ce qui est dit. Et de présenter vos corps, comme quoi? Un sacrifice vivant, entièrement agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. Donc le corps, nous, notre chair, doivent être présentés à Dieu comme des sacrifices vivants, et c'est notre service raisonnable. C'est ainsi que nous pouvons servir, en utilisant nos corps, en utilisant les choses que Dieu nous a données. C'est ce que Christ a fait. C'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il a revêtu la chair, lorsqu'il est venu sur terre, lorsqu'il a passé une partie de l'éternité ici sur terre, c'est ce qu'il a fait. Il a servi, il a nourri les gens, il a guéri les gens, il a enseigné les gens, il a été patient avec les gens. C'était son ministère. Il a lavé les pieds, il a abandonné une partie de lui-même, son droit, il était assis sur le trône, il a abandonné tout cela pour prendre la forme d'un être humain pour venir et servir. Voilà ce qu'il a fait. Et il a fait tout cela sans attirer l'attention sur lui. Lorsqu'il a attiré l'attention sur lui, c'était dans un but précis. Mais il a fait tant de choses, mes frères, qu'il n'a pas attiré l'attention sur lui, et je le sais parce que les Écritures disent que si l'on devait écrire tout ce qu'il a fait, il n'y aurait pas assez de livres pour le contenir, pour tout contenir. Cela nous dit donc qu'il a fait beaucoup de choses. La majorité des choses qu'il a faites, il les a faites sans tambour ni trompette. Il a servi sans tambour ni trompette. Voilà ce qu'il a fait. C'est Jésus-Christ qui a fait cela, un membre de la famille de Dieu que nous décrivons. Dieu manifesté dans la chair. C'était lui. Frères et sœurs, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Que sommes-nous censés faire? Rappelez-vous, j'ai dit que le christianisme est synonyme de service. C'est une équation. Regardez les Actes des Apôtres 11. Actes 11. Actes, chapitre 11. Il est toujours amusant de parcourir les écritures et de trouver des choses simples, mais des choses simples qui peuvent être fascinantes quand on y réfléchit. Actes des Apôtres, chapitre 11. Nous allons lire un seul verset. Acte 11, verset 26. Nous nous trouvons au milieu d'une réunion qui se tenait ici. Et quand il l'eut trouvé, Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il le conduisit à Antioche. Et il arriva qu'une année entière ils se réunirent avec l'Église et enseignèrent beaucoup de gens. Et voici la raison pour laquelle j'ai tourné ici. Les disciples furent d'abord appelés chrétiens à Antioche. C'est donc un peu amusant, parfois soigné, de se demander d'où vient le mot « chrétien ». D'où vient cette expression? Nous l'entendons tout le temps. D'où vient ce mot, plutôt? D'où vient-il? Eh bien, nous voyons ici qu'à Antioche, les disciples, ceux qui avaient suivi Christ, ceux qui avaient écouté Christ et ses enseignements, ces disciples étaient appelés chrétiens. Il n'y a que quelques références à ce mot « chrétien » dans la Bible. Mais il signifie simplement, comme je l'ai dit, qu'un chrétien est un disciple du Christ, un chrétien. Que contient la première partie de ce mot? Christ. Vous êtes donc du Christ. Vous êtes un disciple du Christ. Si vous êtes chrétien, vous prenez le nom du Christ. Vous vous identifiez comme un disciple du Christ. Je suis chrétien. C'est ce que cela signifie. Donc, si Christ a servi, s'il est un serviteur, s'il a pris chair et fait toutes les choses dont nous avons parlé, si Christ a fait cela et que nous le suivons, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Cela signifie que nous devons également servir. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens. Être chrétien, c'est être serviteur. C'est une équation. Les deux vont de pair. Christ a pris la forme d'un serviteur. Frères et sœurs, nous avons un avantage. Nous sommes déjà sous la forme d'un serviteur. Nous avons toujours été des êtres humains. Il est devenu un serviteur. Nous avons donc un avantage. Nous sommes déjà sous la forme d'un serviteur. Sommes-nous en train de servir? Faisons-nous cela? Cela peut sembler élémentaire, mais c'est profond. Être chrétien, c'est être serviteur. Nous ne sommes pas chrétiens si nous ne servons pas. Je ne dis pas cela pour être méchant ou offensant. C'est juste ce que c'est. Ce sont les faits. Beaucoup de gens prétendent être chrétiens, mais ils ne servent pas. Ils ne servent pas. C'est comme si on utilisait le nom de Dieu en vain. Ils ne servent pas. Nous prenons le titre de chrétien sans servir. Le christianisme n'est pas qu'une étiquette. C'est une étiquette, mais ce n'est pas seulement une étiquette. C'est un style de vie. C'est un mode de vie. C'est un engagement. Nous allons passer en revue tout cela au fur et à mesure que nous avançons. Mais chrétien n'est pas seulement une étiquette, c'est un style de vie. C'est tout le sens de Philippiens 2. Revenons-y. Je l'ai lu rapidement, mais maintenant que vous comprenez où je veux en venir, revenons à Philippiens 2. C'est là tout l'intérêt de cette description. Qu'est-ce que je veux dire? Philippiens, chapitre 2, verset 5. Je vais le lire lentement. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est le début. C'est le début d'une phrase. Cette même phrase continue en disant que Christ était en forme de Dieu, qu'il a pris chair, qu'il a pris la forme d'un serviteur, qu'il est devenu un homme. Il s'est fait une réputation. C'est la même phrase. C'est une longue phrase. Septième verset, mais il s'est dépouillé lui-même, Il a pris la forme d'un serviteur, il a été fait à la ressemblance de l'homme. La phrase continue. Et ayant été formé et trouvé à la manière d'un homme, il s'est humilié et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Il a dû devenir un homme pour pouvoir mourir. Dieu ne peut pas mourir, mais Christ est mort. C'est un miracle. C'est difficile à comprendre, difficile à expliquer. Certaines personnes ne croient pas que Christ soit réellement mort. Oh, il est Dieu. Il ne peut pas mourir. Eh bien, il est bel et bien mort. Sinon, nous n'avons pas de sauveur. Mais une partie de son service ultime, a été de donner sa vie. Il est mort. Il faut avoir de la chair pour mourir. Même la mort sur la croix, alors que cette phrase arrive enfin à son terme. Mais le but était de faire en sorte qu'il y ait en vous l'esprit qui était aussi dans Christ Jésus. Le but de cette description est que nous comprenions ce qu'il a fait et que nous ayons la même pensée. D'avoir cette même pensée en tant que chrétien, disciple du Christ. C'est ce que nous faisons. On nous dit, frère, on nous dit de ressembler à Jésus-Christ. Allez à Jean 13. Jean 13. Jean chapitre 13. On nous dit de ressembler au Christ, d'agir comme il a agi. Jean 13, verset 13. Ce sont des paroles que nous lisons à la Pâque, pendant la Pâque. Vous m'appelez maître, c'est Christ qui parle. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites, eh bien, c'est ainsi que je suis. Il déclare donc qui il est. Il est le maître et le seigneur. Cela ne fait aucun doute. Verset 14. Si donc moi, votre seigneur et maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez comme je vous ai fait. Nous le faisons chaque année lors de la Pâque. Mais, bien sûr, aucun d'entre nous ne croit que c'est la seule chose que Christ a faite et dont nous devons nous inspirer ou dont nous devons donner l'exemple. Bien entendu, ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'un exemple très parlant. Le Seigneur et Maître, assis sur le trône des cieux, à la droite du Père, se fait chair et vient laver les pieds des gens, poussiéreux. C'est un exemple frappant. Je veux que vous fassiez tous ce que j'ai fait. Soyez comme moi. Faites-le aussi. Christ ne s'est pas contenté de dire, « Servez-moi, je suis le Seigneur et le Maître. Je suis Seigneur et Maître, mais je suis venu vous laver les pieds. Je veux que vous le fassiez aussi. » Christ ne s'est pas contenté de servir quand cela lui convenait et quand il en avait envie. S'il en avait envie, oui, je servirai. Il n'y a pas de problème. Si je n'en ai pas envie, je ne servirai pas. Je ne servirai pas. Il n'a pas adopté cette attitude. En fait, il était à quelques heures d'être trahi, jugé, accusé à tort, torturé et tué. Pourtant, ce qu'il avait à l'esprit, c'était de servir les gens et de laisser un exemple très coloré de la manière de le faire. Jésus était un véritable leader-serviteur. Vous avez tous entendu ce terme, leader-serviteur. Il y a 10 ou 15 ans, c'était à la mode. Je suis un leader-serviteur. Vous savez, il y avait des PDG et différents ministres, des églises mondaines, des gens partout. Je suis un leader-serviteur, et il n'y a rien de mauvais dans ce concept, mais c'est devenu un slogan. C'est devenu, vous savez, juste une chose à faire. Jésus-Christ était un véritable leader-serviteur. Ses actions ont montré ou illustré son leadership de serviteur. Il a donné l'exemple. Ce n'était pas une question de droit. Vous savez, c'est moi qui commande, alors voilà. Il n'utilisait pas les gens. Il prenait soin des gens. Il ne les utilisait pas comme un moyen de parvenir à ses fins. Frères et sœurs, nous devrions penser à nous-mêmes. Je suis sûr que c'est le cas. Rappelez-vous, je vous donne l'exemple de Jésus-Christ. Nous devrions tous y réfléchir, penser à nous-mêmes dans le cadre de cet exemple. Il n'a pas utilisé les gens. Il a pris soin des gens. Il n'a pas servi uniquement lorsque les gens le regardaient, lorsque les projecteurs étaient braqués sur lui. Il a certainement servi lorsque les projecteurs étaient braqués sur lui, mais pas pour cette raison. Et ce n'est pas tout, j'ai déjà établi qu'il a fait plus que ce que nous pourrons jamais lire. Et dans de nombreux cas, il a servi en silence. Il a servi en silence, en privé. De temps en temps, les gens venaient dire combien il les avait aidés, combien il les avait servis. Mais l'attitude du Christ, son approche, lorsqu'il s'agissait de servir, rendait le Père très heureux. Cela l'a rendu très heureux. Revenons à Ésaïe 42. Ésaïe 42. Vous pouvez penser, ok, c'est bien, que faisait le Père pendant tout ce temps alors que Christ revêtait la chair et servait et tout cela? Que faisait le Père? Comment prenait-il tout cela en compte? Ésaïe 42. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur. Il s'agit donc d'une référence au Christ dans l'Ancien Testament. Voici mon serviteur, que je soutiens, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Le Père était ravi de voir Christ servir, de le voir se donner, aider les gens, ne pas être tourné vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Il était ravi de voir cela. Cela l'a rendu très heureux. Pourquoi? Parce que la raison d'être de l'homme est de servir. Rappelez-vous, nous avons été formés. Il a pris la forme d'un serviteur. Chaque fois que je vois quelque chose, un travail sur lequel j'ai travaillé et que j'ai assemblé, et que cela fonctionne comme je le voulais, je ne suis pas triste. Je suis heureux. Je suis ravi. Le Père était ravi. À quel point est-il ravi lorsque nous servons? À quel point est-il heureux lorsque nous nous sacrifions? Lorsque nous faisons des choses qui ne sont peut-être pas les plus commodes, lorsque nous les faisons de manière cohérente et que nous nous impliquons, à quel point le Père est-il ravi? Il est très heureux. Il est très heureux. Continuez à lire ici. J'ai fait quoi? J'ai mis mon esprit sur lui. C'est intéressant. Et il apportera le jugement aux nations. Christ sert. Le Père est ravi. Il a mis son esprit sur lui pour lui donner les moyens de servir. Dieu met aussi son esprit en nous pour faire la même chose. Il n'attend pas de nous que nous servions par nos propres moyens. C'est ce que font beaucoup de gens dans le monde. Vous savez, il y a des gens qui servent, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, et qui font des choses merveilleuses. Je ne peux pas contredire certains des services qui sont rendus là-bas. Mais je m'adresse aux chrétiens, et Dieu dit qu'en tant que chrétien, il nous donne son esprit et nous donne le pouvoir de servir. Et cela va au-delà du simple effort. L'effort est utile, et cette puissance nous aide dans l'effort, mais elle va au-delà de l'effort. Nous en parlerons. Nous irons à Romains 12. Romains, chapitre 12. Dieu met son esprit, est-il écrit, sur lui. Mais Dieu met son esprit en nous pour que nous puissions servir. Romains, chapitre 12. Nous allons continuer à lire. Nous en avons lu un peu. Nous allons continuer. Romains, chapitre 12. Nous avons vu qu'au verset 1, il est dit que nous présentons nos corps comme un sacrifice vivant et qu'ils sont agréables à Dieu, ce qui est raisonnable. Un service raisonnable. Au verset 2, « Et ne vous conformez pas », c'est intéressant, Le mot conforme est présent dans le texte. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés. Nous voyons à nouveau ce mot. Transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez découvrir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tout cela dans le contexte du service, un service raisonnable. Tout est dans ce contexte. Ceux qui se conforment au monde se servent eux-mêmes. D'une certaine manière, ce n'est pas leur faute. Pourquoi? Eh bien, le Dieu de ce monde, Satan, est un être égoïste. C'est un être très égoïste. Donc, si vous vous conformez au monde, si vous ressemblez au monde, vous allez ressembler à un être égoïste. Vous aurez ces fruits de l'égoïsme. Mes frères, quand nous sortons du monde, nous étions tous dans le monde à des degrés divers. Quand nous sortons du monde, nous sommes censés faire quoi? Nous sommes censés être transformés. Est-ce que nous nous transformons par nous-mêmes, par notre propre pouvoir? Bien sûr que non. Comment nous transformons-nous? Par l'Esprit de Dieu. Ainsi, nous ne sommes plus conformes au monde, mais transformés par le renouvellement de notre esprit. Que cette pensée soit en vous, comme elle était dans Christ Jésus, vous vous en souvenez? C'est par et à travers la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que cela fonctionne. C'est ainsi que nous sommes capables de le faire. Ce n'est donc pas vraiment nous. Je veux dire que nous devons être ouverts et disposés, mais c'est par la puissance de Dieu que nous sommes capables de le faire. Le monde est construit sur la façon de faire. Vous vous souvenez tous de ce dicton, Monsieur Armstrong, qui oppose la façon d'obtenir de la vie à la façon de donner de la vie. Le monde est centré sur l'obtention. Les chrétiens, ceux qui servent, sont motivés par, et nous pensons à la façon de donner la vie. L'opposé, 180 degrés de différence avec la manière de vivre qui consiste à obtenir. La volonté de Dieu, il est dit ici, connaîtra ce qu'est la volonté acceptable et parfaite de Dieu. Voyez ici à la fin du verset 2. La volonté de Dieu est que nous servions. C'est la volonté de Dieu. Nous n'avons pas à nous demander quelle est la volonté de Dieu à ce sujet. La volonté de Dieu est que nous servions. C'est ce qu'il veut que nous fassions. Servir, c'est faire quelque chose qui améliore la vie de quelqu'un ou une situation. Nous en avons parlé. Voilà ce qu'est le service. D'accord, qu'est-ce que le service? C'est un terme très large. C'est un terme général. Il y a de nombreuses façons de servir, mais ce que je veux dire, c'est que nous devons servir. Avant d'aborder la façon de servir, les choses que nous devrions faire et tout le reste, et la façon dont nous devrions penser, mon but est d'être clair comme de l'eau de roche. Nous devons servir. Nous devons servir. Si nous voulons prendre le nom de chrétien, nous devons servir. Et c'est intéressant, Dieu nous a créés pour servir et être servi. Imaginez un monde où personne n'accepterait d'être servi, mais où tout le monde servirait. Comment cela fonctionnerait-il? Laissez-moi vous servir. Non. Laissez-moi vous servir. Non. Laissez-moi vous servir. Non. Laissez-moi vous servir. Non. Dieu nous a donc créés pour servir, et il nous a donné pour mission d'être servis. Les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires. C'est une voie à double sens. Peu importe, et c'est important, peu importe que vous soyez capable, que vous pensiez que vous avez tout ce qu'il faut, que vous pensiez que je suis bon. Nous avons tous besoin d'aide, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que je n'ai pas besoin d'aide ici, mais j'ai certainement besoin d'aide ici. Et vous savez quoi? Je ne savais même pas que j'avais besoin d'aide ici. Nous avons tous besoin d'aide. Nous avons tous des domaines où les gens peuvent nous servir, où les gens peuvent nous aider. Quelle que soit notre force, notre intelligence, les capacités que nous pensons avoir, nous avons tous besoin d'aide à un moment ou à un autre, et probablement plus que nous ne le pensons. Dans un monde où, sur un site de travail, dans un foyer, dans une congrégation, dans n'importe laquelle de ces entités où les gens ne se concentrent que sur eux-mêmes, cela ne fonctionne pas. Cela s'effondre. Si nous cherchons tous à satisfaire nos propres besoins sans nous préoccuper de ceux des autres, cela finit par s'effondrer. C'est le cas sur un chantier, dans le monde, dans un foyer, dans une congrégation. Tout finit par s'effondrer si nous regardons vers l'intérieur. Le service est la façon dont Dieu pense. Il est un Dieu de service, qui s'intéresse aux autres et les aide à satisfaire leurs besoins. Et une partie de cela consiste à accepter ceux qui aident, ce service lorsqu'il vient des autres. C'est ainsi que Dieu pense, et c'est ainsi qu'il veut que nous pensions. C'est exactement comme cela qu'il veut que nous pensions, exactement de la même manière, ce Dieu du service. Être chrétien, c'est donc être serviteur. À quoi cela ressemble-t-il dans la pratique? À quoi cela ressemble-t-il dans la pratique? Je vais le diviser en deux parties. J'ai eu une conversation intéressante en préparant ce message, et j'étais enthousiaste à l'idée de parler de ce que j'allais aborder. J'en parlais avec un homme. Nous avons beaucoup parlé des choses que vous devez faire pour servir, parce que mon but est de partager avec les frères des moyens de servir. Vous savez, je sais qu'ils veulent servir, mais je veux juste leur donner des moyens de servir. Et en parlant avec cet homme, l'une des choses qu'il a fait ressortir et qui m'a été très utile, et j'ai décidé de l'inclure aussi, ce n'est pas seulement sur le quoi de servir, mais c'est aussi sur la façon dont nous servons. Quel est notre état d'esprit? Quelle est notre attitude? À quoi pensons-nous? C'est une chose de le faire, mais c'en est une autre de savoir comment nous le faisons. Nous allons donc examiner la question sous deux angles différents. Le quoi du service, c'est-à-dire le genre de choses que nous devrions faire. Et tout aussi important, le comment du service, comme je l'appelle, le comment du service. Notre état d'esprit, notre attitude, chaque fois que nous servons. Les deux sont nécessaires. Les deux vont de pair. Commençons par quoi? Éphésiens 2. Le chapitre 2 d'Éphésiens. Certains peuvent naturellement et raisonnablement penser, « Monsieur Wingfield, je veux servir. Vous m'avez convaincu, vous m'avez vendu. Je veux servir. » Peut-être aviez-vous déjà cet état d'esprit en arrivant. Je veux servir, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment servir. Je ne veux pas me tromper. Tout a l'air de bien se passer. Je ne veux pas tout gâcher. Je suis nouveau. Je viens de commencer à participer. Je ne sais même pas quels sont les besoins. On dirait que tout est réglé. On dirait qu'on n'a besoin de moi nulle part. Où puis-je servir? Ce sont des questions naturelles. Je suis introverti. Je suis timide pour servir. Eh bien, j'ai quelque chose pour vous ici, alors continuons. Éphésiens, chapitre 2. Permettez-moi de tourner là. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, créé dans Christ Jésus pour de bonnes œuvres. Nous sommes donc l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés, formés, souvenez-vous, formés pour de bonnes œuvres. Dieu nous a façonnés. Ce n'est pas une hyperbole. Retournez à la Genèse. Nous avons été formés. Dieu nous a formés à partir de la poussière du sol. Il nous a formés physiquement. Nous avons été créés à la main pour de bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres ressemblent à ce qu'elles sont. Il s'agit simplement de bonnes choses. Les bonnes œuvres sont de bonnes choses. Ne réfléchissez pas trop quand il s'agit de servir. N'y pensez pas trop. Où y a-t-il un besoin? Comment puis-je répondre à ce besoin? Il y a tellement de façons différentes de servir, mais tout dépend de la façon dont on le voit, et tout dépend de la façon dont on l'envisage. Ne réfléchissez pas trop. De bonnes œuvres, de bonnes choses. Matthieu 10. Nous savons tous quand nous voyons quelque chose et qu'il y a un besoin. Nous ne connaissons peut-être pas tous les besoins, mais nous avons tous regardé une situation et vu qu'il y avait un besoin. Nous sommes tous passés par là, jeunes et vieux. Matthieu 10, verset 38, où il est question de ce qu'il faut faire pour être un disciple. Et celui-là, verset 38, et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui trouvera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. J'ai lu ce verset pour expliquer le niveau d'engagement que nous devons avoir lorsqu'il s'agit du service, le niveau d'engagement. Il est dit ici que si nous sommes prêts à perdre notre vie pour moi, cela ne signifie pas nécessairement la mort. N'oubliez pas que nous sommes des sacrifices vivants. Mais si nous sommes prêts à perdre notre vie pour l'amour du Christ, si nous sommes prêts à perdre notre vie et à servir les autres, si nous sommes prêts à faire cela, nous trouverons la vie. Nous trouverons la vie, et pas seulement dans cette vie. Pensez à la merveilleuse sensation que vous ressentez, surtout si vous le faites dans un bon état d'esprit, lorsque vous servez les autres et qu'ils l'apprécient, ou que vous avez pu répondre à un besoin, à la merveilleuse sensation que vous ressentez. Ah, c'est la vie. Lorsque quelqu'un a besoin d'un repas et que vous l'avez aidé, il a besoin d'un chauffeur pour se rendre au travail. La voiture est tombée en panne de façon inattendue. Vous savez quoi? Oui, je viendrai te chercher. Vous étiez là pour eux. Vous avez été une épaule sur laquelle ils ont pu pleurer. Pensez à combien c'est merveilleux. Si nous perdons notre vie dans cette vie pour l'amour du Christ, nous la retrouverons dans cette vie. Bien sûr, nous la retrouverons dans le monde à venir, la vie éternelle. Mais lorsqu'il s'agit du service, le plus difficile peut être de reconnaître le niveau d'engagement. Une fois que nos yeux s'ouvrent au niveau d'engagement, d'accord, je vais donner ma vie comme une vie de service. Je suis chrétien. Cela équivaut à être un serviteur. Lorsque nous pensons de cette manière et que nous voyons le monde à travers cette lentille, toutes sortes d'observations sur les besoins et les occasions de servir surgissent soudain. C'est comme si nous mettions des lunettes de service. Oh, je peux voir toutes ces différentes façons de servir. Mais c'est grâce à une vie engagée et donnée au service, en étant prêt à perdre sa vie pour le service. Lorsque nous pensons comme Christ, les occasions de servir, le service devient beaucoup plus facile, ou du moins beaucoup plus facile qu'il ne le serait autrement. Matthieu 24. Ici, dans le livre de Matthieu, Matthieu 24, verset 45. Il s'agit d'une référence à un individu dans l'Église, mais je vais prendre le principe. Matthieu 24, verset 45. Il est dit, « Qui est donc ce serviteur fidèle et prudent ? » Nous allons nous arrêter là. Alors, qui est ce serviteur fidèle et sage ? Deux qualités, fidèle et sage. Ils sont fidèles et cohérents. Nous parlons de ce qu'est le service. Ils sont constants. On peut compter sur eux. Vous pouvez compter sur eux pour être là. Ils sont engagés dans le service. Ils sont fidèles. Ils sont également sages. Ils sont vigilants. Ils sont réfléchis. Où y a-t-il un besoin? Développez votre esprit. Où y a-t-il un besoin? Comment puis-je être sage? Vous êtes proactif. Un serviteur fidèle et sage. C'est vraiment tout ce dont vous avez besoin, d'être fidèle et sage. Je ne sais pas quoi faire. Soyez fidèle et sage. Si vous faites ces deux choses, en plus de comprendre la volonté de perdre votre vie au service, en d'autres termes, d'engager votre vie au service parce que vous devez le faire, parce que vous êtes un chrétien, si vous reconnaissez et mettez tout cela ensemble, cela devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Dieu nous a donné tant de moyens, tant de façons de servir. Nous pouvons servir dans le cadre d'une église. Pensez à toutes les choses qui se passent dans l'église, dans le corps du Christ, un groupe de croyants qui se réunissent pour penser, vivre et représenter les choses de Dieu. Toutes les choses différentes qui font que cela se produit. Les services du sabbat, les fêtes, les activités sociales, les choses qui se déroulent pendant la semaine en rapport avec le travail. Ici, au siège, de manière directe. Beaucoup d'entre vous dans mon auditoire sont au siège, mais partout dans le monde, toutes les différentes choses qui se passent, toutes les différentes opportunités, ce qu'est le service. Pensez à toutes ces opportunités. J'ai devant moi une salle remplie de jeunes, plus jeunes que d'habitude, mais pensez à toutes les façons dont vous servez déjà. Et vous savez comment je le sais? Je vous vois le faire. Je vous vois le faire. Vous installez des chaises. J'entends des histoires de jeunes du monde entier qui aident à la sonorisation, à l'installation des écrans et à tout ce qui est nécessaire à l'organisation d'un culte. Sortir les recueils de cantiques, c'est du service. C'est répondre à un besoin. C'est répondre à un besoin. Vous pouvez regarder en arrière, un jeune peut regarder en arrière, c'est à d'autres de le faire. Je suis trop cool pour faire tout cela. Mais non, ce n'est pas l'attitude que vous adoptez. Vous saisissez l'occasion de servir. Nettoyer après les offices, sortir les poubelles, passer l'aspirateur dans le hall. Nous le voyons lorsque nous sortons et que nous rendons visite. Nous le voyons certainement ici. Nous le voyons à la fête. Les jeunes ont de merveilleuses occasions de servir. Aider les parents de jeunes enfants. Je vois de nombreux jeunes servir de cette manière. Ils font les services de la Pâque, ils vont garder les enfants pour que leurs parents puissent aller prendre les symboles. C'est du service dans toute l'Église, en organisant des services religieux, en servant l'Église de Dieu. Se soutenir, signer des cartes, rester en contact les uns avec les autres entre les grands événements, c'est tout ce que les jeunes peuvent faire. Le CJ approche. Il y aura une tonne d'opportunités et de façons de servir au camp. Beaucoup de choses que j'ai déjà nommées, sortir les hymnes, nettoyer, mettre en place. Mais il faut s'assurer d'être attentif. C'est une forme de service. Cette personne, beaucoup de personnes ont fait beaucoup d'efforts pour que le camp fonctionne. Quelle est la meilleure façon de leur rendre l'appareil? Concentrez-vous, soyez attentif, lancez-vous. Amusez-vous. Ne pensez pas qu'à vous. Beaucoup d'entre vous, les jeunes, se rencontrent seuls, vous n'avez même personne de votre âge dans votre région avec qui vous pouvez fraterniser chaque semaine. C'est votre chance au CJA. Deux semaines, deux semaines. De merveilleuses occasions de servir et d'en apprendre davantage sur les choses de Dieu. Je sais que ce n'est pas votre cas, Mais ne tenez pas cela pour acquis. Ne le prenez pas pour acquis. Pour nous, les personnes âgées, il y a beaucoup, beaucoup d'occasions de servir. Je pense au service du sabbat. L'un des grands avantages des offices du sabbat est qu'ils ont lieu chaque semaine. Il y a donc une occasion de servir chaque semaine. Si vous n'êtes pas à la hauteur cette semaine, devinez quoi? Il y a la semaine prochaine, et la semaine prochaine, et la semaine prochaine, et la semaine prochaine. Il existe de nombreuses possibilités de servir chaque semaine. Il est possible de se porter volontaire, d'aider lors des services, d'aider lors des événements, d'aider lors de la fête. C'est la période la plus excitante de l'année pour le peuple de Dieu. Tous les se réunissent, représentent Dieu en public, représentent le mode de vie de Dieu aux yeux des gens qui se demandent pourquoi ces gens portent-ils des costumes? Qui porte encore un costume? Les robes, tout cela. Tout cela est une forme de service. Différentes responsabilités lors des cultes, des occasions de parler. Les ministres ne sont pas les seuls à parler. Nous avons des membres laïcs qui font des prières d'ouverture et de clôture. C'est une forme de service. Cela répond à un besoin du service. Diriger des chants, c'est une forme de service. Les annonces, tout cela est une forme de service. Être proactif, même en dehors des 2 heures de service. Rendre visite aux veuves, aller chercher un article pour un membre, parce que vous savez quoi? C'était sur mon chemin, cela ne me dérange pas. Je peux le prendre pour vous. Vous savez quoi? J'ai de l'essence en trop dans ma tondeuse à gazon. Je peux couper votre gazon. C'est une forme de service. C'est une forme d'aide aux frères. Même en dehors de la fenêtre de 2 heures, je pense au sabbat en général, il y a des repas partage. Les repas partage. Quelle formidable occasion de servir. Et pas seulement de se servir soi-même avec une grande assiette de nourriture. Quel incroyable, 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 je peux continuer à dire incroyable, occasion de servir. L'une des choses qui m'ont fasciné, j'en ai déjà parlé, c'est que lors de mon premier service du sabbat, je suis arrivé et j'étais excité, et je ne sais pas si j'ai simplement oublié, je suis sûr que le pasteur me l'a dit, mais je pense que j'étais prêt à partir ou que je pensais que nous allions nous en aller. Eh bien, non, il y a un repas partage. Vous devez rester. Vous devez manger. D'accord. Et au fil des ans, j'ai reconnu, vous savez quoi? Le repas partage et le partage du pain avec le peuple de Dieu font partie du service. C'est pour cela que nous le faisons. On pourrait se dire, d'accord, 2 heures, amen à amen, à la semaine prochaine. Non, non. Souvent, la meilleure partie, selon le point de vue, peut être le repas partage. C'est l'occasion de rompre le pain. Les ministres apportent la nourriture spirituelle. Vous tous, les frères, apportez la nourriture physique. Nous avons besoin des deux, sinon nous aurons des problèmes. Nous avons besoin des deux. Le repas partage est une excellente occasion de servir. Une merveilleuse occasion. Si vous vous demandez, comment puis-je servir? Que puis-je faire? Le repas partage. C'est une excellente façon, concrète et hebdomadaire, de servir, et ce n'est pas difficile à faire. Ce n'est pas difficile à faire. Vous pouvez évidemment apporter un plat. Vous pouvez apporter de la nourriture. Vous savez, beaucoup d'entre vous, vous planifiez, vous allez, vous réfléchissez à votre menu, vous faites votre liste de courses. Vous allez au magasin, probablement lorsque vous achetez vos autres produits alimentaires. Et vous faites en sorte que votre achat comprenne quelque chose pour le repas partage. Vous ramenez cette nourriture à la maison et vous la conservez. Le week-end venu, vous la sortez, vous la décongelez et vous vous mettez au travail. Vous commencez à cuisiner. Beaucoup sont connus pour leurs plats. Oh, c'est le plat de Madame Untel. C'est le dessert de Monsieur Untel. Je suis content d'être venu au service aujourd'hui. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle vous venez au culte, mais le culte est devenu bien meilleur parce que cette personne a apporté son repas, ou a apporté le repas qu'elle aime préparer. Pensez au niveau de service d'une personne dévouée, sur laquelle vous pouvez compter. Ils sont fidèles. Ils sont sages. Les choses sont chères, si vous ne le savez pas. Les choses sont chères. Il faut savoir faire preuve de sagesse. Oh non, je veux contribuer au repas. Dieu, donne-moi la sagesse. Donnez-moi de l'argent. Mais soyez sage. Beaucoup de gens le font. Ils sortent, cherchent des recettes, des façons d'étirer la nourriture, des idées créatives. Très rarement, et vous savez, certains d'entre eux nous sont différents. Je ne viens pas à un repas partage en m'attendant à être rassasié. Vous savez, je n'ai pas mangé de la semaine. Je viens au potluck. Ce n'est pas comme cela que je vois les choses. Apportez ce que vous avez. Apportez ce que vous pouvez. Mais il n'y a pas que la nourriture. Nous ne pouvons pas manger la nourriture avec nos mains. On peut, mais on ne peut pas simplement la prendre dans ses mains. Il faut des assiettes, des fourchettes, des serviettes et de quoi laver la nourriture. Ce sont aussi des façons de servir. Je ne sais pas cuisiner. On peut acheter du jus de fruits. On peut acheter du ketchup. De la sauce piquante. Avons-nous de la sauce piquante? Vous pouvez faire tout cela. Il faut juste s'en préoccuper. Je ne sais pas cuisiner. Je suis désolé, je ne sais pas cuisiner. Tu ne veux pas manger mon cookie. Ok, tu as probablement raison. Mais qu'en est-il de cela? Tu parles d'être sage. C'est une idée que j'ai entendue, et je me suis dit, tu sais quoi? C'est une bonne idée. Mais disons que, tu sais quoi? Je ne suis pas le meilleur cuisinier. Je ne sais pas vraiment comment m'y prendre, mais voici ce que je vais faire. Je vais parler à quelqu'un qui est un bon cuisinier et qui aime cuisiner, et je vais faire quoi? Je vais lui demander. Qu'est-ce que je peux acheter pour que vous puissiez le cuisiner? De quels ingrédients avez-vous besoin? Je les achèterai et je les apporterai même chez vous. Vous savez quoi? Je vous les donnerai pour que vous puissiez les cuisiner. Devinez quoi? Vous avez servi. Cette personne aime cuisiner. Vous avez contribué. C'est seul être créatif. C'est sortir des sentiers battus. Les congrégations changent tout le temps. Les gens se déplacent. Il arrive que des membres d'une congrégation soient des cuisiniers hors pair. Les circonstances font qu'ils ne sont plus là pour cuisiner. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Nous mourrons tous de faim? Non. Nous intervenons tous, nous prenons de la hauteur et nous servons d'une manière différente. Peut-être d'une manière que nous n'avions pas à servir auparavant, mais maintenant nous pouvons servir d'une manière différente. Il s'agit d'être créatif. J'ai beaucoup parlé du service dans l'église. Qu'en est-il du service à la maison? Servir à la maison. Éphésiens 5. Chapitre 5 d'Éphésiens. Il ne s'agit pas seulement de servir à l'église. Je suis coupable de cela. Lorsque vous prononcez le mot « service », Je commence à penser à des choses liées à l'Église, au service et à tout cela, mais cela va bien au-delà. Nous ne sommes ici qu'une fois par semaine. Ici, au siège, c'est un peu différent, mais vous n'assistez au service religieux qu'une fois par semaine. Qu'en est-il du reste de la semaine? Éphésiens, chapitre 5, verset 22, Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Nous voyons là la norme. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église et le sauveur du corps. C'est pourquoi, comme l'Église est soumise au Christ, que les femmes soient en tout soumises à leur mari. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Verset 28. De même, les hommes doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Restons ici dans le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, ce qui est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les dans l'éducation et l'exhortation du Seigneur. Ces quelques versets que j'ai lus, mes frères, ces quelques versets présentent des dizaines d'occasions de servir dans le foyer. Des dizaines d'occasions. Et mettez-vous à votre place. Si vous n'êtes pas marié, mettez-vous à votre place. Mais il existe de nombreuses possibilités de servir au sein du foyer. En fait, le service commence à la maison. On n'apprend pas à servir à l'église. Non, on apprend à servir à la maison. Ainsi, quand on vient à l'église, on a l'air de savoir ce qu'on fait. Oh, j'ai déjà fait cela avant. J'ai déjà servi. Cela me semble familier. Vous l'avez déjà fait. Ce n'est pas nouveau. Enfants, vous devez servir et obéir à vos parents. Vous en retirez quelque chose. C'est le premier commandement avec une promesse. Vous aurez une longue vie. Ce n'est pas si mal. Marie, nous devons servir et aimer nos femmes. Les femmes doivent servir et honorer leur mari. Parents, nous ne devons pas mettre notre pouce sur nos enfants. Nous devons les élever en les nourrissant et en les réprimandant. C'est ainsi que nous les servons. Nous leur montrons ce qu'est une relation avec Dieu. C'est une forme de service. Adolescents, faites vos corvées sans vous faire harceler. C'est une forme de service. C'est un grand service. Entendez-vous, frères et sœurs? Ne vous disputez pas. Et si vous vous disputez, faites-le rapidement. Sans violence. Et finissez sur une bonne note. Marie, aimez votre femme et soyez doux avec elle. Les femmes sont des créatures délicates. Ne soyez pas durs avec vos femmes. Ne faites pas cela. Et les femmes, honorez vos maris. Ne leur dites pas, « Je te l'avais bien dit. Je t'avais dit que cela ne marcherait pas. » Un homme ne veut pas entendre cela après que quelque chose est mal tourné. Croyez-moi, il sait que vous l'avez dit. Vous n'avez pas besoin de le lui rappeler. C'est l'un des pires sentiments au monde. Ne le faites pas. Soyez gentils l'un envers l'autre. C'est, en soi, une grande forme de service. Avoir la paix dans son foyer. Les femmes et les maris seront-ils en désaccord? Oui, cela arrivera. Les enfants le verront-ils parfois? Oui. Mais essayez d'en faire le moins possible. Aidez-les à comprendre. Aidez vos enfants à comprendre ce que c'est que de servir et d'honorer sa femme en tant que mari, et la femme en tant que personne censée honorer son mari. Le mari aime sa femme. La femme honore le mari. C'est une forme de service. Vous enseignez à vos enfants ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils auront une famille. Il y a aussi le service dans la communauté et au travail. Matthieu 5. Pas seulement à la maison. Pas seulement à l'église ou lors de réunions sociales. Il y a des occasions de servir au travail, sur le lieu de travail. Je ne sers pas sur mon lieu de travail. Je suis là pour recevoir un chèque. D'accord, il n'y a rien de mal à recevoir un chèque, mais nous sommes aussi là pour servir. Notre but est bien plus grand que de recevoir un chèque, même si c'est bien. Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils puissent faire quoi? De voir vos bonnes œuvres. Nous avons parlé des bonnes œuvres tout à l'heure. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsque nous permettons aux gens de voir nos bonnes œuvres, en grande partie parce que nous faisons de bonnes œuvres, mais lorsque nous les faisons et que les gens les voient, cela sert à quelque chose. Cela les aide, leur permet de glorifier Dieu. Vous l'avez tous entendu. Nous sommes la seule Bible que de nombreuses personnes ne liront jamais. Les actes sont plus éloquents que les mots. Lorsque nous agissons comme nous le faisons et que les gens découvrent par hasard que nous sommes chrétiens, ils se disent « Ah, c'est pour cela qu'ils agissent comme cela ». Et en fait, ils sont différents des autres personnes là-bas qui disent qu'elles sont chrétiennes. Ils sont différents. C'est une forme de service. C'est plus qu'un simple chèque. Et, au fait, si vous êtes une lumière, vous gagnerez probablement plus d'argent. Donc, si vous ne pensez qu'à l'argent, c'est très bien aussi. C'est très bien aussi. Mais ce n'est pas votre objectif. Il s'agit d'être une lumière. Il s'agit de représenter notre Père qui est aux cieux. C'est une chose importante à faire. Matthieu 25. En conclusion de ce quoi, Matthieu 25, avant d'aborder le comment, nous lirons cette série de versets. Matthieu 25, verset 35. Matthieu 25, verset 35. Car lorsque j'ai eu faim, c'est Christ qui parle. Et il distribue ses récompenses et ses punitions. Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais étranger, vous m'avez recueilli. Quand j'étais nu, vous m'avez vêtu. Quand j'étais malade, vous m'avez visité. Quand j'étais en prison, vous êtes venu à moi. Alors le juste lui répondra, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous nourri, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire, ou étais-tu un étranger, et t'avons-nous accueilli dans notre maison, ou étais-tu nu, et t'avons-nous vêtu, ou étais-tu malade, ou étais-tu en prison? Quand tout cela s'est-il produit? Nous ne nous souvenons pas d'avoir vu cela. Verset 40, le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Aucun d'entre nous, s'il est saint d'esprit, ne nourrirait Jésus-Christ s'il avait faim, ou ne lui donnerait à boire s'il avait soif. Aucun d'entre nous ne ferait cela. Mais comprenez ce que je veux dire. Lorsque nous faisons cela pour les plus petits d'entre eux, mes frères, lorsque nous faisons cela les uns pour les autres, lorsque nous nous servons les uns les autres, nous servons directement Dieu. Voilà ce qu'est le quoi du service. Concentrons-nous sur le comment. Car, comme je l'ai dit, Dieu se soucie autant du comment ou de l'esprit qui sous-tend notre service que du service lui-même. Le comment est souvent difficile à gérer, à comprendre dans certains cas, et peut-être même à observer. En effet, vous pouvez voir quelqu'un vous tendre un verre d'eau. Vous pouvez le voir si vous le recevez, ou si vous vous tenez à l'écart et que vous le voyez se produire. C'est facile à voir. Ce qui n'est pas si facile à voir, c'est ce qui se passe dans l'esprit de cette personne lorsqu'elle donne ce verre d'eau. À quoi pense-t-elle? Sur quoi se concentre-t-elle? C'est un peu plus difficile à voir. Et parfois, c'est même difficile à voir pour la personne qui le fait. Frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement de servir les actes mêmes. C'est très important, très important. Mais c'est la manière dont nous le faisons. Sur quoi nous concentrons-nous? Galates 5. Galates 5, verset 13. Galates 5, verset 13. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais servez-vous les uns les autres par amour. Nous avons donc cette liberté. Nous avons cette liberté. Nous avons la possibilité de faire des choix. Et ce que nous lisons ici, c'est que l'un des choix que nous devrions faire est de servir, et nous devrions le faire dans l'amour. Une préoccupation extérieure, pas une concentration intérieure. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, verset 1. Prenez garde de ne pas faire vos aumônes devant les hommes pour être vus d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2. C'est pourquoi, quand vous faites votre aumône, ne sonnez pas de la trompette devant vous, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'avoir la gloire des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ils ont eu ce qui les attendait. Ils ont obtenu la récompense qu'ils recherchaient. Le problème, c'est qu'elle venait des hommes. Ils ont leur récompense. Verset 3. Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et que ton Père, qui voit dans le secret, te récompense ouvertement. Frères et sœurs, si nous servons pour attirer l'attention, si nous servons pour que les gens nous voient servir, regardez-moi, je sers. Vous avez votre récompense. Oh là là, c'est un grand sermon. Qu'est-ce qu'on mange? D'accord, il a servi, super. Vous avez votre récompense. Cela ne peut pas être notre motivation. Nous ne devrions pas nous concentrer sur cela. Frères et sœurs, même les meilleurs d'entre nous, les mieux intentionnés, même les meilleurs d'entre nous peuvent tomber dans ce piège et laisser le quoi du service prendre le dessus sur le comment du service. Parfois, lorsque nous servons, nous grommelons, « Je ne veux pas faire cela, mais je dois le faire. » Nous le faisons, mais nous en voulons. Notre cœur n'y est pas. Nous le faisons parce que les gens nous regardent. Oh, voilà monsieur un tel. Regardez-moi, je sers. Je dis cela un peu pour être facétieux, mais nous l'avons tous fait. Oh, regardez. Je suis monsieur un tel. Je dois montrer que je sers. Nous sommes tous tombés dans le piège de penser que notre service, notre contribution, est plus importante que celle de quelqu'un d'autre. Mon service est supérieur au vôtre. Ce n'est qu'un service. Ceci est du service. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Nous y avons tous été confrontés. Vous savez quoi? Je suis juste épuisé. Je ne veux plus servir. J'en ai assez. Et évidemment, cela va affecter notre attitude parce que notre cœur n'y est pas. 2 Thessaloniciens 3. Nous sommes humains, nous sommes faits de chair. Rappelez-vous, les serviteurs sont humains, mais les humains ont des faiblesses. Les humains ont de mauvais moments. 2 Thessaloniciens, Chapitre 3, verset 13. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Mais vous, frères, ne vous lassez pas de bien faire. Ne vous lassez pas de bien faire. Une dame qui a fréquenté notre église pendant de nombreuses années est tristement célèbre pour avoir fait une déclaration du genre « Je ne sers plus. Je ne sers plus. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fini de servir. Êtes-vous un être divin ? Quoi ? Penser comme cela, et le dire ? Et ensuite ne pas servir ? C'est de l'ignorance à un niveau spectaculaire. Il s'agit presque certainement d'une personne qui s'est laissée aller à l'amertume et à la déception. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. C'est à vous de le faire. Et si Jésus-Christ pensait ainsi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Nous serions tous dans le pétrin. Nous serions tous dans le pétrin. C'est très triste, très triste. Luc 10. Luc, chapitre 10. Nous allons lire l'histoire de deux sœurs. Luc, chapitre 10. Deux sœurs, et cela parle de cela, le quoi contre le comment du service, ou pas contre, mais le quoi avec le comment du service. Luc chapitre 10, reprenez au verset 38. Luc chapitre 10, verset 38, comme ils allaient, il entra. En parlant du Christ, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui, elle aussi, était assise aux pieds de Jésus et écoutait sa parole. Mais Marthe, qui avait beaucoup de travail, s'approcha de lui et lui dit, « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que ma sœur m'a laissé seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » J'allais dire que son attitude s'est répandue. Elle s'est répandue. Ses motivations sont apparues au grand jour. Qu'elle vienne m'aider. C'est beaucoup. Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t'inquiètes de beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas enlevée. » Marthe était occupée à servir, et Marie écoutait et était assise aux pieds de Jésus-Christ. Marthe faisait une bonne chose. Elle faisait de bonnes choses. Nous avons tous reçu des invités chez nous. Nous voulons nous assurer qu'ils vivent une bonne expérience. C'est une bonne chose. Nous voulons nous assurer que tout est prêt et là où il faut. Elle n'a rien fait de mal à cet égard. Mais c'est sa concentration qui posait un problème, et lorsqu'elle n'a pas été reconnue comme elle le pensait, elle s'est mise à bouillonner. Et il s'est avéré qu'elle n'était pas aussi bien placée qu'elle le pensait. Frères et sœurs, cela peut arriver à chacun d'entre nous, surtout si vous avez servi pendant un certain temps. Vous avez été dans cette voie pendant un certain temps, et vos genoux commencent à fléchir. On se dit, que Marie vienne m'aider, je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais Marie était concentrée. Elle était spirituellement à l'écoute. J'ai réfléchi à Marie, et rien ne dit qu'elle était nécessairement la plus grande entrepreneuse. Elle n'avait peut-être pas le souci du détail. Peut-être lui demandait-on de rendre service d'une manière ou d'une autre, « Oh, j'ai oublié de sortir l'eau. Comment allons-nous lui laver les pieds ? Oh, je n'ai pas ramassé le pain. Il va avoir faim. » Marthe dit, « Comment as-tu pu ne pas prendre le pain ?» Marie n'était donc pas nécessairement parfaite dans son service, mais elle avait les bonnes priorités et le bon objectif. Honnêtement, une personne qui a une bonne attitude, son service est un peu bancal. Peut-être qu'ils avancent et qu'ils essaient de comprendre les choses, mais s'ils ont la bonne attitude, Dieu peut travailler avec eux. Dieu peut travailler avec cela. Prenez cela comme une leçon. Psaume 51. Frères et sœurs, si nous luttons avec cela, et nous pouvons tous le faire, si nous luttons, il y a de l'espoir. Si nous nous fatiguons, si nous nous lassons de servir, si notre service n'est peut-être pas le meilleur, il y a de l'espoir. Psaume 51, verset 10. Psaume 51, verset 10. Ô Dieu, crée-moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. Si nous avons du mal à servir, si nous sommes fatigués, si notre attitude n'est pas ce qu'elle devrait être, demandez à Dieu de vous donner un cœur pur. Demandez à Dieu de vous donner un cœur pur, de renouveler en vous un esprit droit. Demandez à Dieu de vous donner un cœur pur, de renouveler en vous l'esprit droit, de vous ramener à l'endroit où vous avez commencé à servir, quand c'était excitant et que les gens semblaient l'apprécier davantage. Demandez à Dieu de vous ramener à cet endroit. Il le fera. Il le fera. Eh bien, mes frères, pour conclure, nous allons revenir à notre point de départ. Nous pensons à Cecil, le majordome, l'homme qui a eu des débuts modestes. En fin de compte, il a commencé comme métayer, puis a servi à la Maison Blanche, a servi des dignitaires, a été assis avec des rois. Lorsque nous nous servons les uns les autres, nous servons tous de futurs rois. C'est ce que nous faisons. C'est ainsi que nous devrions voir les choses lorsque nous nous servons les uns les autres. Nous servons les futurs rois, et nous nous préparons également à devenir des rois. Que font les rois pour leur peuple et les pays qu'ils gouvernent? Ils les servent. Nous le répétons sans cesse. Les responsables doivent servir leurs subordonnés. C'est ce que nous nous préparons à faire. Nous avons tous eu des débuts modestes. La plupart de nos appels ont été humbles. Nous ne sommes pas les personnes les plus glamour du monde, et même si nous le sommes, nous sommes tous issus de la terre. Nous avons donc tous eu des débuts modestes, mais nous avons la possibilité de servir tranquillement, avec dignité, sans fanfare, sans être remarqués. Si les gens le remarquent, tant mieux. C'est agréable d'entendre, « Oh, super, j'apprécie que vous serviez, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous le faisons, et nous le ferons même si les gens ne le disent pas. » Mais notre avenir est très semblable à celui du majordome, et il ressemble beaucoup à celui de Jésus-Christ. Il a revêtu la chair, il a servi, il est mort, il a été ressuscité, il est devenu roi et il a régné. Nous avons la même promesse devant nous. Alors, mes frères, servez. Servez-vous les uns les autres et laissez-vous servir. C'est une voie à double sens. Servez quand c'est facile, servez quand ce n'est pas facile. Servez quand on vous demande de servir, servez quand on ne vous demande pas de servir. Faites-le décemment et dans l'ordre, demandez la permission, mais soyez proactifs. N'oubliez pas que Dieu nous voit. Il sait ce que nous faisons. Il regarde ce que nous faisons. Et surtout, il nous récompense pour notre service. Dieu nous observe. Il cherche des serviteurs.